Voilà, bonjour mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Radio Okapi, chers collègues de la presse, bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 14 septembre. À la une de cette conférence de presse aujourd'hui, visite en RDC du 9 au 13 septembre du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'appui aux missions, M. Atul Kare, l'assistance humanitaire de la MONUSCO au Sud-Soudanais dans le parc de la Garamba, les activités des composants de la MONUSCO. Fabien Febvre nous présentera depuis Goma les activités menées par l'équipe pays des Nations Unies. Et puis nous resterons également à Goma pour le point de la situation militaire et sécuritaire avec le capitaine Yachine Kassim, porte-parole militaire par intérim. Retenez également que les collègues de l'équipe pays sont dans la salle et pourront répondre à des questions que vous aurez éventuellement. L'invité de cette conférence de presse est M. José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous présentera donc le rapport mensuel de la situation des droits de l'homme en RDC. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse, que nous commençons tout de suite avec donc cette information sur la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'appui aux missions, M. Atul Kare. Pendant sa mission, M. Atul Kare a rencontré des autorités congolaises, y compris le ministre de la Défense, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec qui il a échangé notamment sur l'appui de la MONUSCO au processus d'enrôlement des électeurs, l'appui des forces de la MONUSCO à la protection des civils, à la coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, pour la neutralisation des groupes armés. M. Kare a également visité l'Est de la RDC, y compris Goma, Beni, Oicha, Maïmona, Rwindi, Kindu, où il s'est entretenu avec les forces de la MONUSCO, le personnel des Nations Unies. Il s'est aussi familiarisé avec les difficultés logistiques et s'est engagé à faciliter les appuis opérationnels pour améliorer l'effectivité des troupes sur le terrain. Pendant son séjour dans l'Est de la RDC, il a rencontré le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu pour des échanges. M. Kare, avant son départ, a salué les progrès réalisés par la RDC et a encouragé le personnel des Nations Unies et les troupes de la MONUSCO à continuer leur engagement aux côtés des autorités et des populations congolaises pour le retour d'une paix durable en RDC. À présent, assistance humanitaire de la MONUSCO au Sud-Soudanais dans le parc de la Garamba. La MONUSCO a poursuivi cette semaine encore ses opérations d'extraction des dernières personnes du Sud-Soudan du parc de la Garamba. Depuis le début de cette opération, donc le 17 août dernier, 752 personnes ont été extraites et conduites vers quatre sites, Dungu, Munigi, Goma et Bunia. Plusieurs armes ont été récupérées et gardées dans les locaux de la MONUSCO. Plusieurs d'entre eux avaient aussi des blessures par balles, certains présentaient des signes de malnutrition, d'autres étaient sérieusement malades, notamment du paludisme, et beaucoup étaient entre la vie et la mort. Ceux qui étaient ou qui sont encore dans une situation qui nécessite une aide urgente ou un traitement médical sont soignés ou en convalescence dans les installations de la MONUSCO. Des dispositifs sécuritaires ont été mis en place dans ces sites où sont les Sud-Soudanais. Depuis la mi-août, c'est donc par vagues successives que les Sud-Soudanais ont été extraits du parc de la Garamba, placé d'ailleurs patrimoine mondial de l'humanité, à la demande des autorités congolaises. Deux raisons ont milité pour justifier cette intervention de la MONUSCO. Tout d'abord, la MONUSCO a agi sous son mandat de protection des civils. Et ensuite, la MONUSCO agit dans le cadre de l'assistance humanitaire prescrite donc par les lois internationales. Il faut rappeler que le 17 août dernier, à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo et pour des raisons humanitaires une fois de plus, la MONUSCO a extrait l'ex-vice-président du Soudan du Sud, M. Riek Machar, sa femme et son fils, ainsi que 10 collaborateurs de l'intérieur du parc national de la Garamba en province du Haut-Tolé, dans le nord-est de la RDC. M. Machar avait traversé la frontière du Sud-Soudan vers la RDC, accompagné de plusieurs centaines de personnes, y compris des éléments armés et des civils. Riek Machar avait été remis à l'époque aux autorités congolaises. La MONUSCO et le siège des Nations Unies à New York poursuivent donc les discussions avec le gouvernement de la RDC et les organisations sous-régionales afin qu'une issue favorable soit trouvée à cette situation. À présent, activité des composantes de la MONUSCO, police de la MONUSCO, UNPOL, Le chef de la composante police MONUSCO, le commissaire Awale Abdounassir, a présidé samedi dernier au camp de l'unité de police constituée indienne Madiba à Beni, une cérémonie de remise de médailles en présence du chef du bureau de la MONUSCO, M. Warner Ten Kate, du commandant de l'unité de police constituée indienne, du commandant de la brigade d'intervention, du commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC du Nord Kivu, le général Awashango Vital, du chef de la PNC de Beni, du maire de la ville, ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et militaires et du personnel de la MONUSCO. 146 récipiendaires, parmi lesquels 140 policiers de l'unité de police constituée indienne et 6 policiers individuels des Nations Unies, ont reçu leur médaille qui les récompense pour le travail accompli. En marge de la dite cérémonie, le chef de la composante police de la MONUSCO a remis au commissaire provincial de la PNC du Nord Kivu un lot de matériel constitué de bâtons de protection, de boucliers, de casques de maintien de l'ordre offerts par l'unité de police constituée de l'Inde. Remise de médailles des Nations Unies à Bukavu. Dans la même lancée, le mercredi 7 septembre, la cérémonie de remise de médailles de l'ONU à 140 éléments de l'unité de police constituée égyptienne et de 10 policiers individuels de la police des Nations Unies UNPOL s'est tenue à Bukavu. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, l'adjoint au chef de la composante police, le général Tabaski Diouf, et d'autres officiels de la province y ont pris part. Le commandant de l'unité égyptienne, le colonel Mohamed Azam, a estimé que c'est un grand honneur de servir sous le drapeau onusien, de porter le casque bleu, d'être les gardiens de la paix. Il a indiqué que la vraie valeur de leur travail, c'est qu'ils ont pu offrir à l'humanité, particulièrement aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo, qui en ont le plus besoin. Quant à M. Charles Frisby, le chef du bureau MONUSCO dans la province du Sud Kivu à Bukavu, il a loué la participation de l'Égypte dans les efforts de maintien de paix en RDC, rappelant sa première contribution dans ce cas déjà dans les années 60. M. Frisby a fait savoir que depuis lors, les soldats de paix égyptiens ont sacrifié leur confort de leur maison et leur famille pour voyager à travers le monde afin de soutenir l'engagement international pour la paix et la stabilité. Session de formation à travers la RDC avec UNPOL, la police des Nations Unies. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise PNC, la MONUSCO a ouvert plusieurs sessions de formation à travers la République démocratique du Congo. Ces différentes sessions portent sur la police des mines à Boujimaï, la police de proximité à Lubumbashi et Boujimaï, la sécurisation des armes à feu à Bukavu. En outre, des sessions de formation en maintien et rétablissement de l'ordre public, des gestes et techniques professionnelles d'intervention et en droit de l'homme se poursuivent à Lubumbashi, Bukavu, Goma, Bunia, Kalemi et à Kinshasa. Ces formations et recyclages en police de mine et en police de proximité en cours dans les provinces du Kasaï oriental, du Haut-Katanga, organisées dans le cadre des projets de formation, se poursuivent également sous la conduite des formateurs UNPOL et de la PNC. Financées par les gouvernements américains et canadiens, ces formations sont supervisées par la Direction générale des écoles de formation de la police nationale congolaise en collaboration avec la cellule coordination de la formation de la composante police MONUSCO. En outre, les sessions de formation au profit de 459 cadres et agents et groupements mobiles d'intervention de Bunia, Bukavu, Goma, Kalemi, Kinshasa et Lubumbashi ont démarré le lundi 5 septembre dernier. Elles se tiennent dans les écoles de police de Bunia, de Jules Moke à Bukavu, de Mugunga à Goma, de Kasapa à Lubumbashi, de Kasangulu non loin de Kinshasa et au centre de formation de Kalemi sous la conduite des formateurs UNPOL assistés de leurs collègues de la PNC. Enfin, le stage pratique concernant 366 apprenants de la police de proximité à Boujimaï, lancé le jeudi 1er septembre dernier dans les unités territoriales de la PNC de la ville, continue pour une durée d'un mois. Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre des stratégies opérationnelles intégrées de lutte contre l'insécurité à Beni Oicha et à Goma ont poursuivi leur patrouille régulière de sécurisation. Au total, 94 appels ont été reçus sur les numéros verts, 34 interventions ont été effectuées et 14 individus ont été interpellés pour diverses infractions de droit commun. Sans tarder, prenons maintenant la direction de Goma où nous allons retrouver donc Fabien Febvre qui partagera donc avec nous les informations d'ordre humanitaire et de développement. Bonjour Fabien, c'est à vous.
Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Sans plus attendre, voici les contributions de l'équipe pays. Cérémonie de lancement de l'étude sur le coût de la faim en RDC, conséquences socio-économiques de la sous-nutrition infantile. Le coût de la faim en Afrique est un projet de la Commission de l'Union africaine, soutenu par le Programme alimentaire mondial des Nations unies et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'étude multi-pays se propose de chiffrer les coûts qu'entraîne la sous-nutrition infantile pour le secteur de la santé, l'éducation et la productivité, et d'illustrer le manque à gagner lié au sous-investissement de la nutrition. En République du Congo, l'étude permettra de mieux comprendre les effets de la sous-nutrition et, à contrario, le rôle que la nutrition correcte de l'enfant est appelée à jouer dans le développement du pays. Elle sera menée par une équipe nationale de mise en œuvre, réunissant tous les services techniques centraux actifs dans le domaine de la nutrition, la réalisation des statistiques nationales et les programmes de développement. Les données seront recueillies et analysées avec l'appui du Bureau du Programme alimentaire mondial à Addis Abeba et de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes au Chili, avec l'orientation technique de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement de la RD Congo organise le lancement officiel de cette étude ce mercredi 14 septembre. Il s'agira d'en présenter les objectifs et de s'assurer que tous les acteurs concernés puissent y participer pleinement, ainsi que de passer en revue les actions politiques à mener dans différents secteurs pour réduire la sous-nutrition en général et les retards de croissance en particulier. À l'occasion du démarrage en RD Congo de la campagne Porte à Porte, l'UNICEF rappelle que la scolarisation des enfants est la responsabilité de tous. Deux semaines après la rentrée scolaire, l'UNICEF apporte son appui au gouvernement de la RDC dans l'organisation de la campagne Porte à Porte. Cette campagne a pour but de mobiliser au sein des ménages les parents à inscrire les enfants à l'école primaire. La campagne est pour l'UNICEF l'occasion de rappeler la responsabilité de chacun pour la scolarisation qui est un droit. La campagne d'inscription en première année primaire des enfants de 6 à 7 ans pour l'année scolaire 2016-2017 a été officiellement lancée ce jeudi 11 août à Kinshasa. Cette dernière vise l'inscription de 2 millions d'enfants par la mise en œuvre d'un ensemble de stratégies dont la distribution de fournitures scolaires aux enfants les plus vulnérables. La campagne Porte à Porte va pouvoir identifier à la fois les enfants non inscrits, mais également les mesures de protection sociale pour les maintenir à l'école. En ce sens, elle constitue une étape significative vers une éducation pour tous en RDC, ainsi que vers l'atteinte des objectifs de développement durable pour une éducation de qualité d'ici à 2030. Après l'appel initial du 11 août fait aux parents de scolariser tous les enfants, le moment est venu d'aller dans les ménages pour identifier ceux qui ne sont pas encore inscrits et les emmener vers les écoles. L'opération porte-à-porte, activité phare devant contribuer à la réduction du nombre d'enfants non scolarisés et à l'inscription de tous les enfants à l'école, prévoit la visite d'au moins 100 ménages autour de chaque école primaire pour identifier les enfants non inscrits et sensibiliser leurs parents ou tuteurs en vue de leur inscription dans l'établissement scolaire. L'UNICEF lance un appel à tous les acteurs éducatifs à s'impliquer à partir du lundi 19 septembre dans la conduite de cette campagne qui a démontré ses effets dans le passé en contribuant significativement à inscrire à l'école des centaines de milliers d'enfants non scolarisés. Formation des gestionnaires des sites internet des assemblées provinciales. Le programme des Nations Unies pour le développement organise ce 15 et 16 décembre une formation sur la gestion des sites internet en faveur des assemblées provinciales de Kwilu, Tchopo et Kasaï-Oriental. L'objectif de cette formation est de fournir les informations nécessaires à la gestion des sites mis à la disposition de ces assemblées pour leur visibilité et leur interaction avec les communautés locales. Cette formation s'adresse aux hommes et femmes responsables de communication qui sont chargés de l'administration quotidienne et de la mise à jour de ces sites internet. Une fois formés, ils devront être autonomes et capables de faire des mises à jour des portails de leur assemblée provinciale respective. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux institutions démocratiques et de la société civile, lancé depuis le mois de juillet 2015. Ce projet apporte son appui à l'amélioration de la gouvernance démocratique au niveau provincial. Il renforce les capacités des élus provinciaux, ainsi que du personnel administratif dans leur fonction de législation et de contrôle. Les communautés locales, rassemblées dans les organisations de la société civile, sont également formées pour une participation plus accrue dans le suivi des politiques publiques et le contrôle citoyen. Je vous remercie.
Fabien, pour ce tour d'horizon de l'actualité humanitaire et des questions liées au développement, nous restons à Goma. Nous allons retrouver le capitaine Yachine Kassim, porte-parole militaire par intérim, pour un tour d'horizon de l'actualité militaire. Capitaine, bonjour, c'est à vous.
Alors bonjour, merci beaucoup. La situation sécuritaire dans la ville, province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été rapportée calme durant la semaine écoulée. Dans les provinces de Haut et de Bas-Ouélé, l'environnement sécuritaire est demeuré relativement calme et a été caractérisé par une baisse significative d'activisme des groupes armés, notamment l'armée de résistance des seigneurs, LRA, mais également par la libération de civils kidnappés. Et ce, suite aux activités militaires menées dans le cadre de l'opération dénommée Red Kite, cerf-volant rouge, par l'armée congolaise avec le soutien de la force de la MONUSCO. En Ituri, une forte pression militaire a été exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenue par la force onusienne sur les éléments réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI, dans le but de contrer leur activité négative perpétrée contre les populations civiles dans les localités situées au sud du territoire des Romons. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, des éléments du FRPI ont attaqué la localité de Kombi, située à 21 km au sud de Kessigny. Des troupes d'intervention rapide des FARDC ont été promptement projetées sur les lieux et repoussé les assaillants. En Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été jugée imprévisible et volatile du fait d'attaques lancées contre les populations civiles et les unités de l'armée congolaise dans le territoire de cette province, notamment Butembo, Walikale et Lubero. L'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, maintient toutefois l'environnement sécuritaire sous contrôle, et ce, par la conduite des activités militaires vigoureuses contre les groupes armés actifs. Le 9 septembre, l'armée congolaise a lancé des opérations contre les éléments du groupe Mai Mai Nyatura, dans les localités situées dans la région de Lucholi, près de Tongo, notamment Kanyatse, Robwe Sud, Kojo, Baimba, Mutanga, Muze, Bempa et Kasesero. Le même jour, les FARDC ont étendu leur opération à Kabizo dans le but de déloger la nouvelle milice dénommée Rahia Tujetegeme, composée d'environ 100 éléments, armés de 50 calaches et d'une importante quantité de munitions. À la même date, les FARDC ont lancé des opérations contre les éléments des Forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR, dans la région de Kibirizi, située à 8 km au nord de Kilima, et capturé 9 entre eux. Dans le territoire de Masisi, les activités militaires menées par l'armée congolaise avec le soutien de la force de la MONUSCO poussent des miliciens à désarmer. À cet effet, le 8 septembre, les éléments du groupe Mai Mai Nyatura, aux ordres des colonels Bigarabagbo et Kasongo, ont rendu volontairement aux FARDC 20 armes, une mitrailleuse et un mortier au cours d'une cérémonie organisée à Mouissou, située à 17 km au nord de Kichanga. Au chapitre des redditions, dans la province du 7 septembre à ce jour, 5 éléments en provenance des groupes armés, dont 3 des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, se sont rendus aux troupes de la force onusienne déployées dans la province. Au sud Kivu, des opérations menées par l'armée congolaise avec le soutien de la force de la MONUSCO en vue de la neutralisation des groupes armés se poursuivent normalement, et ce malgré l'activisme de certaines milices rapportées pendant la période sous examen. Le 6 septembre, des éléments du groupe Mai Mai Nyatura ont pillé et tué un éleveur dans la localité de Lombichi, située à 45 km au nord de Zeralo. Des troupes d'intervention rapide des FARDC ont traqué les assaillants et tué 5 entre eux. Le 9 septembre, un officier d'origine burundaise impliqué dans des activités illégales de recrutement dans la localité d'Ak, située 25 km au sud-est de Bondira, dans le territoire de Fizi, a été arrêté par les troupes des FARDC. Au Tanganyika, la situation sécuritaire est demeurée volatile durant la semaine écoulée. Elle a été jugée tendue et confuse dans la région de Nyanza et dans la partie septentrionale du territoire de Kongolo, du fait des exactions contre les populations civiles liées au conflit interethnique entre les communautés Luba et Pygmy, mais également du déplacement des populations civiles dans la zone. Le 7 septembre, la MONUSCO a déployé une mission d'évaluation sécuritaire dans la région de Nyanza. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone, la MONUSCO préconise une réponse vigoureuse coordonnée avec les autorités provinciales afin de mettre un terme aux violences et rapportées, commises par les milices Luba et Pygmy contre les forces de défense congolaises ainsi que les populations civiles. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 988 patrouilles armées, dont 319 nocturnes, et fourni 56 escorts pendant la période sous examen. Merci beaucoup.
Voilà, merci au capitaine Yachin Kassim qui nous présentait donc ce tour d'horizon de l'actualité militaire de ces 7 derniers jours. Retour ici à Kinshasa où nous allons retrouver mon voisin de droite que vous connaissez très bien, José María Aranaz, le directeur donc du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour son traditionnel point sur la situation humanitaire des droits de l'homme en RDC. Bonjour monsieur José María, c'est à vous.
Bonjour monsieur Charles Bambara, bonjour les collègues de la presse et bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Comme Charles a bien dit, on va faire la traditionnelle résumé de la situation des droits de l'homme qui était enregistrée par les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le mois d'août et qui confirme les mêmes tendances que dans de toute l'année, même s'il y avait une augmentation des civils tués par l'action des groupes armés et même si on a enregistré une hausse de la chiffre des violations des droits de l'homme enregistrées dans le territoire de la RDC. Dans le mois d'août, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 393 violations des droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Les agents étatiques ont été responsables de 63 personnes de ces violations et ils ont commis au moins 27 victimes d'exécutions sommaires ou judiciaires. Les groupes armés ont été responsables de 145 violation des droits de l'homme dans les territoires affectés par les conflits. 135 civils ont été tués par les groupes armés et 135 civils ont été tués dans les territoires affectés par les conflits, 109 par les groupes armés et 24 par les agents étatiques. Le bureau a enregistré au moins 63 violations des droits de l'homme et libertés fondamentales de l'espace démocratique qui sont des relations avec les élections à l'avenir. Dans le cadre des progrès, le bureau a enregistré au moins 21 membres de l'FRDC et au moins 7 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme dans le mois de août. Et le bureau salue les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre la impunité. Aussi, dans le mois de août, le rapport a salué les mesures de crispation et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Souvent, il y avait 15 individus dans la liste partagée par les hauts commissaires et les représentants spéciaux avec les autorités qui ont été libérés. Et on a salué aussi l'instruction du ministre de la Justice au procureur de l'RDC par rapport des réquisitions des peines et qui souligne le droit à la liberté d'individu comme règle générale. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc à José María Aranaz pour la présentation de ce rapport mensuel, le rapport du mois d'août sur la situation des droits de l'homme en RDC. La totalité de ce rapport vous sera remis donc à la fin de cette conférence de presse pour éventuelle exploitation. Cela nous amène tout droit à la deuxième partie de cette conférence.